6h46 sur France Culture. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Mignot.
Au sommaire des enjeux aujourd'hui, les conséquences géopolitiques de la remontée des cours du pétrole.
Les enjeux internationaux, Xavier Martinet.
Et oui, avec ce nouveau seuil historique il y a une semaine pour le pétrole, $80 le baril, un plus haut depuis plus de 3 ans. On parle de choc pétrolier possible sur fond de tensions géopolitiques. Mais attention au trompe-l'œil. Bonjour Francis Perrin.
Bonjour.
Merci. Excusez-moi, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur à l'IRIS et ancien directeur de pétrole et gaz arabe. Alors, on en parlait en novembre, c'était $60 le baril de pétrole. Là, c'est 20 de plus. La chute des prix et la crise pétrolière de 2014 semblent enrayées, mais pas forcément pour plus de stabilité, parce qu'elle est en partie due à cause des tensions géopolitiques, on va en parler, mais aussi parce que certains s'inquiètent de la hausse des prix à la pompe, hein, potentiel facteur d'instabilité politique, notamment dans les émergents, Mexique, Brésil, Argentine. Instabilité, voire nouveau choc pétrolier si la situation régionale se dégrade. Et puis aussi parce que ce seuil de 70 ou $80 le baril pourrait aussi relancer la compétition pétrolière mondiale, atténuée par un accord OPEP-Russie pour limiter la production. Ce prix rend le pétrole américain très compétitif et fait donc peser une nouvelle incertitude sur les pays à rente, l'Arabie Saoudite, la Norvège ou l'Algérie, obligés de se diversifier ou de subir. Les rumeurs enflent d'ailleurs sur une possible adaptation de l'accord OPEP dès juin et de dissensions dans le cartel. En tout cas, si certains investisseurs, Francis Perrin, parlent d'une prime de risque boursière à empocher en période de crise, dans cette nouvelle configuration, qui l'empochera et surtout qui supportera le risque? Alors le risque, justement, il y a eu deux pics de prix tout récemment, avant l'annonce du retrait de Donald Trump sur le nucléaire et avant l'élection présidentielle au Venezuela. C'est un peu ça la situation aujourd'hui.
Ce sont des éléments, bien sûr, majeurs, et des éléments, comme vous l'avez souligné, de nature géopolitique, donc pas facilement prévisibles, c'est le moins que l'on puisse dire. Il faut cependant les replacer dans un cadre un petit peu plus large. Il y a d'abord la croissance économique mondiale qui s'accélère avec un impact sur l'augmentation de la demande pétrolière mondiale. Deuxièmement, vous l'avez évoqué également, les efforts de réduction de la production des pays membres de l'OPEP et de 10 pays non-OPEP, dont la Russie. Il y a troisièmement une réduction des stocks pétroliers dans les pays de l'OCDE. Et il y a quatrièmement ces risques et tensions géopolitiques dont nous parlions, notamment bien sûr au Moyen-Orient. Nous avons quand même une guerre en Syrie, une guerre au Yémen, pas mal de tensions par ailleurs, notamment des tensions autour de l'Iran, les tensions États-Unis-Iran, Israël-Iran, les tensions Arabie Saoudite-Iran, évidemment Israël, Gaza, etc. Et puis nous avons la production du Venezuela qui s'effondre, due à des problèmes politiques, économiques et sociaux internes, alors que, rappelons, le Venezuela est le premier détenteur mondial de réserves prouvées de pétrole devant l'Arabie Saoudite. Donc tout ceci fait un ensemble de facteurs haussiers en face. Pour les facteurs baissiers, il y a celui que vous avez évoqué à juste titre, l'augmentation continue de la production pétrolière américaine. Les États-Unis continuent à mettre de plus en plus de pétrole sur le marché, mais nous avons d'un côté un facteur haussier et de baissier, pardon, et de l'autre une conjonction de plusieurs facteurs haussiers. Donc très clairement, pour l'instant, les prix sont orientés à la hausse.
Alors on va dire un mot de la stratégie américaine. Juste encore un seul sur les prix. Patrick Pouyanné, le PDG de Total, annoncé le 16 mai ou déclarait qu'il ne serait pas surpris de voir un baril à $100 dans les prochains mois, sans doute en vertu de ce risque, puisqu'il se Total est engagé en Iran. Est-ce que c'est une possibilité sérieuse?
On ne peut pas l'écarter. Vous savez, très fréquemment, l'être humain a tendance à extrapoler. Quand les prix baissaient, c'était il n'y a pas si longtemps, entre 2014 et 2016, certains disaient ils vont tomber à 20, 15, 10 dollars par baril. En fait, ils sont tombés un petit peu en dessous de 30 et puis après, ils sont remontés. Cela dit, nous étions en début d'année à environ $65 par baril pour le Brent produit en mer du Nord. Nous sommes aujourd'hui, vous l'avez rappelé, à $80 par baril. Donc, qu'on envisage pour 2019 $100 par baril, personne ne sait si on les atteindra. Mais en tout cas, ce n'est pas complètement absurde. Rappelons encore une fois qu'en janvier 2016, le prix du Brent était à un moment tombé à $27-28 par baril et que nous sommes aujourd'hui à $79-80. Donc c'est une remontée spectaculaire en un peu plus de 2 ans. $100 par baril, oui. On ne peut pas l'écarter, même si personne n'a de boule de cristal pour prévoir les prix du pétrole.
Et on a un prix qui double presque régulièrement tous tous les ans et demi là depuis 3 ans, effectivement, sans y voir non plus une formule magique. Alors, qui serait intéressé aujourd'hui justement dans cette hausse des cours pour l'instant? Est-ce que c'est plutôt des pays qui doivent reconfigurer leur portefeuille pétrolier ou des sociétés pétrolières? Là, on a beaucoup parlé d'Aramco qui doit être introduit en bourse, la société saoudienne, ou bien des pays qui ont changé stratégie, des stratégies plus chères, comme les États-Unis justement.
Alors, je dirais que tous ceux qui gagnent avec la hausse spectaculaire des prix du pétrole, ce sont tous ceux qui vendent du pétrole. Et qui vend du pétrole? Les pays producteurs et exportateurs, qu'ils soient ou pas membres de l'OPEP, donc bien sûr l'Arabie Saoudite, l'Irak, l'Iran, la Russie, beaucoup d'autres. Les compagnies pétrolières nationales, comme la Saudi Aramco dans l'Arabie Saoudite, qui est un géant pétrolier mondial, les compagnies pétrolières privées, telles que ExxonMobil, Shell, BP, Total, etc. Tous ces acteurs-là profitent de la hausse des prix du pétrole, alors que tous ces acteurs avaient évidemment été frappés durement par la chute des prix du pétrole entre 2014 et 2016. Mmh. Ensuite, à l'intérieur de cette galaxie d'acteurs, certains vont en profiter plus que d'autres. Pour l'Arabie Saoudite, c'est une double récompense. D'une part, ils obtiennent le retrait des États-Unis de cet accord et le rétablissement des sanctions contre l'Iran, qui n'est pas leur meilleur ami, c'est le moins qu'on puisse dire. Mmh. C'est une expression très diplomatique. Et d'autre part, cela contribue à faire encore monter les prix du pétrole, dont ils profitent en tant que premier exportateur mondial, et vous l'avez évoqué également, cela favorise la future privatisation à hauteur de 5% d'après ce qui a été décidé, de leur géant national Saudi Aramco. Plus le prix du pétrole est élevé, plus évidemment la valorisation de la compagnie sera élevée et plus les conditions seront meilleures pour une bonne introduction en bourse.
Vous avez dit ceux qui empochent, c'est ceux qui vendent aujourd'hui. Est-ce que c'est ceux qui vendent qui vont empocher ou ceux qui prospectent? Parce que justement, il y a cette question de la stratégie gaz de schiste qui est posée aux États-Unis désormais, avec ce fameux bassin permien qui pourrait devenir quatrième producteur mondial si c'était un pays. Et on voit qu'il y a une nette différence entre des compagnies comme Exxon qui perdent en valeur parce qu'elles n'investissent pas dans le schiste et d'autres comme Chevron qui, elles, au contraire, augmentent parce qu'elles ont investi dans ces nouvelles technologies aujourd'hui rentables.
Alors, ce qui est sûr, c'est que avec la hausse des prix du pétrole, ceux qui réalisent des profits immédiats, ce sont ceux qui vendent du pétrole. Mmh. Ceux qui prospectent, bien sûr, ils espèrent que les prix vont demeurer à des niveaux suffisamment élevés, peut-être plus élevés, mais en tout cas des niveaux suffisamment élevés, pour le moment où leur future production arrivera sur le marché. D'autant plus que la prospection, l'exploration, c'est un jeu extrêmement risqué. Quand on fait des forages dans le cadre notamment du bassin permien que vous évoquiez aux États-Unis pour les hydrocarbures de schiste, on sait que les réserves de pétrole sont là, on fait donc des forages, on sait qu'on aura une production future. Mais si on est vraiment sur la prospection et l'exploration, c'est par définition le risque. L'industrie pétrolière a développé son activité d'exploration en disant le contexte est bon, donc je vais prendre plus de risques, je vais plus investir en espérant évidemment que le succès soit au rendez-vous. Et l'industrie américaine, ou en tout cas l'ensemble des producteurs, car il y a aussi des producteurs étrangers qui travaillent dans les bassins américains où on a du pétrole et du gaz de schiste, quelques années après, ils ressortent de cette crise qui a été extrêmement difficile avec une compétitivité renforcée, puisque les prix du pétrole remontent depuis 2016 et qu'entre-temps, ces pétroliers ont beaucoup réduit leurs coûts. Donc aujourd'hui, même s'il est très difficile de donner des coûts moyens, parce que ça dépend de l'État, c'est pas la même chose au Texas et au Dakota du Nord, ça dépend du bassin à l'intérieur d'un même État, ça dépend dans un champ, est-ce que vous êtes au centre ou est-ce que vous êtes à la périphérie, est-ce que vous avez un oléoduc tout près, ce qui réduit les coûts, combien vous êtes endetté auprès de la banque, donc c'est très difficile. Mais disons que aujourd'hui, en gros, avec un prix de l'ordre de $40 par baril, ou un petit peu plus, le pétrole de schiste aux États-Unis est compétitif. Quand on est à 80, ce qui est le cas aujourd'hui, cela veut dire qu'on gagne pas mal d'argent. Un prix de cet ordre-là permet aux pétroliers américains de dégager de bons bénéfices et cela les pousse à investir pour développer leur production aux États-Unis de pétrole conventionnel et non conventionnel, dont ce fameux pétrole de schiste et ce gaz de schiste.
Bon, bah, étant donné que ces pétroliers américains ressortent à ce que vous dites plus affûtés, on pourrait dire, et compétitifs de cette crise, est-ce qu'un des grands regardant aujourd'hui, c'est pas l'OPEP et cette sorte d'entente cordiale avec la Russie pour justement limiter, plafonner la production, enrayer la baisse des cours et qui se retrouve aujourd'hui piégé avec cet accord et pas forcément plus compétitive face à ces pétroliers, eux n'ayant pas ces nouvelles techniques.
Depuis quelques années, l'OPEP est face à un dilemme extrêmement délicat. Quand les prix chutent, l'OPEP réduit sa production pour faire remonter les cours de l'or noir. Mais quand les cours de l'or noir remontent, l'industrie pétrolière américaine redevient plus compétitive, donc elle investit plus, donc elle augmente sa production, donc il y a plus de pétrole sur le marché, et donc ça risque de faire baisser les cours. Et l'OPEP peine à trouver une solution durable à moyen terme à ce dilemme. Par contre, actuellement, dans le court terme, pas dans le moyen terme, car dans le moyen terme, le problème demeure. À court terme, les prix ont beaucoup augmenté depuis le début de l'année 2016 et la consommation pétrolière mondiale augmente. Ça veut dire que pour l'instant, l'OPEP est dans un cercle vertueux, plus de demandes, pour l'ensemble des producteurs, dont les 14 pays membres de l'OPEP, des prix nettement plus élevés qu'il y a à peu près 2 ans et demi. Il y a évidemment cette épée de Damoclès de la production américaine qui continue à augmenter, mais pour l'instant, l'OPEP se sent très bien. Ensuite, évidemment, à moyen terme, il y a encore beaucoup de points d'interrogation et l'OPEP n'a pas forcément, au moment où nous parlons, trouvé une solution satisfaisante à ce dilemme américain.
Et merci Francis Perrin.